c'est pour ça qu'on vient au séminaire, pour qu'on soit pas d'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup.
Merci.
Okay. C'est peut-être pas très important, mais juste une nuance. Quand Shimon se permet des écarts, j'ai l'impression, je l'ai pas lu ce livre, mais tel que vous le décriviez, j'ai l'impression que il a aussi intégré une certaine hiérarchie des lois sans nécessairement savoir d'où ça vient, mais il sait qu'il y a certaines choses, bon, si c'est nécessaire, si les enfants sont là, si je sais pas, ça va.
Ah, tout à fait. D'ailleurs, Moshe Kopel parle d'une scène traumatisante pour lui,
où Shimon embrasse son petit-fils, ou sa petite-fille, je ne sais plus, ça ferait peut-être une différence, à la choule, à la synagogue, et le petit David, là, qui revient de la yeshiva, il dit à son grand-père, à Shimon, qui a fui les camps, etc., il lui dit, non, c'est écrit dans le Kitsur Shulchan Aruch qu'on ne peut pas embrasser son petit-fils entre Shacharit et ceci, enfin, qui le recadre. Moshe Kopel dit que Dieu ait pitié de ce garçon qui s'adresse comme ça à Shimon, en tout cas. Donc oui, il a intégré une hiérarchie. Et ce que le garçon caricatural qui revient de Yeshiva a intégré, c'est un rapport plus rigide. En fait, à la fois Soloveitchik et Kopel essayent de célébrer une forme de flexibilité qui n'est pas le judaïsme libéral. Ce n'est pas la flexibilité du protestantisme. Il n'y a rien de flexible dans le fait de sortir du respect des mitzvot. Mais ils célèbrent tous les deux une forme de flexibilité qui a disparu. Et l'enseignement par les livres, et Breuil a tout un bouquin sur le Mishnah Broura, sur la manière dont le Mishnah Broura fonctionne et façonne les esprits, mais l'enseignement par les livres est de nature, quand il n'est plus accompagné d'un enseignement à la maison ou par imitation, de nature à susciter des rapports un peu plus crispés. Or, ce qui, à mon avis, sauve le judaïsme, y compris le judaïsme savant, des gens qui étudient abondamment les sources, c'est l'étude. C'est l'étude des processus. Parce que celui qui sait qu'est-ce qui est recommandé, obligatoire, des oraita, des rabbanal, celui qui dispose de toutes ces catégories-là, peut prendre de temps en temps des décisions en connaissance de cause. Alors que si c'est un manuel qui nous dit que faire, on court le risque de ne pas savoir qu'est-ce qui est plus important qu'autre chose. Donc oui, il avait imbibé une hiérarchie. Ah, il ne donne pas les exemples. Hein. Moshe Kopel se garde bien, il est prudent, c'est quelqu'un de malin. Il ne donne pas les exemples des infractions que s'est toléré Shimon. Il ne dit pas ce que c'est. Et on restera dans l'ignorance de exactement qu'est-ce qu'il a fait. Mais je pense personnellement à quelqu'un que j'ai connu, qu'on a connu à Bruxelles, qui de temps en temps faisait des écarts, mais c'était un Talmid Chacham. Et personne n'osait trop lui dire. Il y avait toujours quelques jeunes pour lui dire non, c'est pas, on n'a pas le droit. Mais il faisait des petits écarts par rapport à ce qu'on aurait attendu de lui. Je ne suis pas en train de célébrer les écarts. Je suis en train de célébrer le fait de savoir pourquoi on fait quelque chose. C'est-à-dire un juste milieu. Et certains ici autour de la table sont dans ce juste milieu. Je dis juste que ce n'est pas fréquent et ce n'est pas facile de tenir plusieurs générations. Je connais des gens qui sont des Shimon, mais leurs enfants, ils sont partis d'un côté ou de l'autre. Ils sont partis d'un côté ou de l'autre. Ils ne sont plus au même endroit qu'eux. Pourquoi ? Parce que les gens aspirent à plus pour leurs enfants. Et plus, ça veut souvent dire on les envoie dans une yeshiva où ils vont revenir nous expliquer qu'on fait mal ce qu'on fait. Mais peut-être que ça les rend heureux. Peut-être qu'ils sont contents d'avoir des enfants plus froum qu'eux. Je comprends ce désir. Je dis juste que il est très. Ce qui est héroïque, c'est le juste milieu.
Mais on est tous édits. et on est tous Shimron. En tout cas, moi, je suis par rapport à vous, évidemment, Eddie, et par rapport à d'autres, dans ma communauté ou ailleurs, je parais l'homme religieux, Shimron. Donc, on est tous, et même dans la vie, à un certain moment, on devient Shimron, on devient Eddie. Donc, est-ce que ça veut dire que pour vous, finalement, quand ce que vous avez dit, vous m'avez interpellé sur le doit-on étudier ou doit-on prier ? Y a-t-il primauté pour l'étude, primauté pour l'action de la prière, de la tefila ?
J'ai pas compris ? Je n'ai pas d'avis. Je n'ai rien de personnel à dire là-dessus. C'est une question classique de savoir si quel mitzvah l'emporte sur quel autre. Je ne sais pas si on est tous Eddie et Shimon. Je crois qu'on est peu à être Shimon. C'est pour ça que c'était le titre du livre. D'être le Shimon que Moshe Coppel décrit, je ne sais pas qui l'est.
Moshe.
Pardon ?
Moshe Rabbeinu.
Non, mais si c'est pour idéaliser une figure, c'est justement pas Shimon. Shimon n'est pas, c'est pas le rabbi de Lubavitch.
Je suis d'accord.
Shimon, c'est le juif organique qui à la fois travaille, à la fois est pétri de tradition et tient tout cela dans une harmonie qu'il est difficile parfois de garder sur plusieurs générations. Est-ce souhaitable ? Je ne sais pas. Moshe Coppel semble appeler cela de ses voeux. Mais en tout cas, ça permet un petit peu de diagnostiquer le piège qui est je me passe totalement du droit ou j'entretiens un rapport juridifié, chaque fois plus juridifié, au droit. Ce qui parfois donne lieu à des conséquences fâcheuses.
Oui, un instant.
Dans vos propos, d'ailleurs, je vous remercie. C'est un éclairage très très important. Mais aujourd'hui, en fait, vous expliquez ou vous éclairez un petit peu cette légitimité du droit français à faire. Je pensais à l'affaire Halimi, où la loi s'est faite sans justice aucune et avec une légitimité incroyable, et que on voit ça. On voit ça, cette rigidification comme ça du droit qui ne serait que de la loi, même quand vous parliez de ce souffle d'épigénétique dans les rapports, mais avant il y avait le fatum de la génétique et l'épigénétique a apporté cette espèce de rapport juridique à la chose. Donc vous pourriez l'expliquer par exemple sur l'exemple de l'affaire Halimi, est-ce que c'est un exemple pour vous ? Cette espèce de rigidité de la loi où on n'a pas fait du tout. C'était légitime de ne pas faire de la justice. Vous avez jamais. Ouais.
Je suis pas du tout préparé pour ce genre de questions. Je n'ai pas l'effet en tête. Mais je vais rappeler un petit peu de.
Non, mais ça ne fait rien. C'est...
Parler de.
C'est-à-dire. C'est-à-dire que. Oui.
Sarah, quelqu'un veut lui raconter ?
Bon, si vous ne voyez pas de rapport, c'est peut-être que ma vision de voir un rapport avec ça est malentendante.
Vous semblez rapporter un fait typique de votre rapport romantique au droit. Votre rapport romantique au droit, c'est la dénonciation d'une application sèche
de la loi. Alors que la justice aurait promu une décision plus juste, quitte à prendre des distances avec la loi.
Oui, pour moi, c'était une métaphore
oui.
Politique de cette rigidité à laquelle on est tous contaminés aujourd'hui.
D'une certaine manière, peut-être à tort, on pourrait dire que c'est comme dans Les Misérables avec Jean Valjean. La loi condamne, la justice voudrait que...
Voilà, Les Misérables, c'est l'expression paradigmatique oui. Du romantisme. Je dis, simplement, dans Les Misérables,
condamne la loi au profit du juste. Et donc, on ne raisonne pas juridiquement. Donc, non, mais ça veut dire que Victor Hugo ne nous permet pas non plus un rapport serein et fécond au droit. Il emprunte le raccourci qui conduit directement à la justice. Donc, le fait de monter en épingle, alors je ne parle pas de l'affaire Limi, les décisions qui semblent injustes, mais qui sont conformes à la loi, et de promouvoir un agenda qui lui-même poursuit la justice, c'est ce à quoi nous avons droit. Mais moi, je voudrais sortir de ce rapport romantique pour, non pas légitimer toutes les décisions de l'application de la loi, mais pour encourager à raisonner juridiquement. Par exemple, si on lisait des passages, quand Jean Valjean sort après avoir volé les chandeliers, et que le prêtre lui dit, pour paraphraser Brassens, « Ce que tu m'as volé, mon cher, je te le donne », bien, on pourrait se demander, vous suivez, il a volé le bien, et le curé, quand les gendarmes arrivent, il dit « Non, mais c'est les siens ». Les gendarmes sont frustrés parce qu'ils avaient enfin attrapé le voleur et le curé décide. On pourrait se demander juridiquement à partir de quand est-ce que le don a eu lieu. C'est moins amusant que le romantisme, mais on peut raisonner juridiquement même sur la littérature française, même sur la littérature romantique française. C'est assez absent. Si vous voulez, dans la littérature française, les juristes ont toujours le mauvais rôle. Ils ont toujours les mauvais rôles comme les jésuites. Et pourquoi Pascal est si violent à l'égard des jésuites ? Dans les provinciales, si vous lisez les provinciales, c'est une violence terrible. Il cite et critique les jésuites, à mon avis, parce que les jésuites raisonnent juridiquement. Dans une civilisation où c'est interdit, c'est impossible. Et pour cause, parce qu'ils vont trop loin. C'est-à-dire que quand on est le seul à raisonner juridiquement, sans communauté, sans même communauté herméneutique, eh bien, on peut atteindre des conclusions qui sont scandaleuses. Et les jésuites que dénonce Pascal proposent des montages qui sont scandaleux, proposent des lectures juridiques sur des problèmes moraux. Donc, dans le christianisme, ce sont des problèmes moraux que les jésuites résolvent juridiquement. Mais ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de renouer normalement avec le droit et avec le raisonnement juridique. Donc j'ai malheureusement rien d'intelligent ou de non-intelligent à dire sur cette affaire en question, mais il me semble qu'elle constitue un exemple de quelque chose de frustrant. Mais disons, mon propos ne serait pas aujourd'hui de dénoncer l'application de la loi au profit d'une justice, puisque vraiment, on n'a pas besoin de moi... Pour ça, c'est le rôle des romanciers, des journalistes et de tout le monde. Mais pas le mien. Moi, j'essaye de promouvoir l'étude de l'argumentation à la maison. Enfin, je veux dire, de manière le plus naturelle possible.
J'entends bien. Et je faisais un parallèle extra, une métaphore de justement...
n'est pas discuté, on lui donne plus espace et il y a une légitimité à ne pas donner cet espace. Voilà, c'était juste ce...
On n'argumente pas en France. Juridiquement, on n'argumente pas juridiquement. C'est comme ça que j'explique qu'il y a peu d'auteurs qui écrivent sur l'argumentation juridique. Chose de gênant.
Je crois qu'il y a des bras qui se lèvent.
Juste la parole.
Tu veux que je la porte?
En fait, ça revient à poser une question sur un peu sur le livre de Coppel, je pense, mais bon, ça rejoint le propos, donc voilà. Est-ce que ce rapport non organique au droit, il ne commence pas déjà en fait avec les phénomènes de codification? Alors, je peux remonter très loin, mais Maïmonide et même avant lui Rabbi Yehuda Hanassi, parce qu'à partir du moment où on passe de l'oralité à un texte en fait, qui se transmet sur support et non plus à l'oral, on est déjà dans quelque chose, on perd quelque chose. Et ça faisait partie certainement des réflexions que Rabbi Yehuda HaNassi pouvait avoir. Hein. C'est la raison pour laquelle le Talmud lui-même est assez critique à l'égard de ce phénomène d'écriture-là. Mais il y a quand même une autre phase, enfin, c'est une autre étape quand même avec Maïmonide. Là, c'est vraiment un code de loi, et c'est un code de loi qui est adressé a priori au vulgaire. Enfin, il y a une question, est-ce qu'il vient écarter le Talmud ou pas? Mais en tout cas, c'est un code de loi qui est censé s'inviter, j'ai l'impression, à la maison. Et donc, y a une pénétration, là, justement, précisément, de la maison. Est-ce qu'on ne perd pas déjà ce rapport-là au caractère organique? En fait, comment retrouver, comment être un Shimon quand, chez soi, dans sa cuisine, on a Maïmonide, ou on a le Mishneh Torah de Maïmonide?
Alors, il me semble que ce n'est pas la présence d'un code à la maison qui serait de nature à déclencher la détérioration du lien, du canal mimétique. Ce n'est pas le fait qu'on possède un Shulchan Aruch ou un Kitsur Shulchan Aruch ou un Mishneh Torah ou un code de loi qui, en tant que tel, va empiéter sur le canal mimétique. Si vous voulez, j'ai souvent vu dans des synagogues un enfant qui demande à son papa, mais nous on est, bon en l'occurrence c'était marocain, mais pour n'importe quel pays, nous on est marocain, on dit ce Tehillim. Ben, très étonné, comment ça, ce Tehillim maintenant? Oui, et puis il lui montre le Patach Eliyahu, enfin le livre de prière, où il est marqué, les juifs marocains disent ce Tehillim à cet endroit. Le père, il voit ça pour la première fois. Il dit, ben oui, nous on est juifs marocains, on a toujours fait ça. Que le sidour soit à la maison, c'est évidemment une bonne chose. C'est pas la présence du code, à mon avis, qui est le déclencheur, c'est le rapport au code. On a quelqu'un qui est pétri de tradition, là je pense à quelqu'un en particulier, un juif marocain, pétri de toutes les traditions. Il doit passer 3 heures par jour à la synagogue à faire tous ses psaumes dans le bon ordre. Et il les prononce bien. Mais si le sidour de sa communauté lui dit quelque chose, je ne critique pas du tout ce qui se passe. Je constate juste que il pourrait changer d'avis. Il pourrait dire, bon, désormais, je me suis trompé, je dirai ce psaume à ce moment-là. C'est pas ça. C'est lire dans le livre exactement ce que le canal mimétique est censé lui donner, ce qu'il a toujours fait. On peut apprendre quelque chose dans un livre, on peut faire ce qu'on a toujours fait, on peut faire les deux. Mais regarder dans le livre pour savoir ce qu'on a toujours fait, je constate juste que quelque chose est brisé, même dans les familles les plus traditionnelles, dans leur rapport, dans la confiance qu'on a dans l'imitation. Et tant mieux pour certaines choses. On peut se rendre compte qu'on a fait fausse route. Mais ce serait très différent de dire, voilà, on va changer. Désormais, on va abandonner ce minag, qui est un mauvais minag. Et c'est très différent de dire, non, non, une fois qu'on a ouvert le livre, voici qu'elle a toujours été notre tradition familiale. Le mot dissocié n'est pas assez fort pour décrire ce comportement qui est à la limite du déni. Et donc, c'est comme ça que je répondrai. Je ne crois pas que le code en tant que tel ait d'incidence tant que la tradition mimétique est vaillante. Lorsqu'elle s'affaiblit, alors évidemment, la présence du code aura des effets. Pas forcément mauvais. Je ne condamne pas, si vous voulez, je ne critique pas cette chose-là. J'essaie d'exprimer un diagnostic qui a été fait par Koppel et Chaim Soloveitchik. Et je crois qu'il dit quelque chose de juste, en creux, de notre rapport au judaïsme, donc au droit, dans un Occident qui nous interdit d'entretenir ce rapport-là au droit.
Et il faut accepter, je veux parler de toi comme ça, mais il faut accepter aussi que le canal mimétique, des fois, sera soutenu précisément par le canal scolaire ou scientifique. C'est-à-dire qu'on pourrait...
C'est se faciliter la vie en se disant non, moi je fais que comme mes parents et je vais pas précisément aller dans le monde de la yeshiva, je vais pas, on va dire, enrichir mes connaissances par ce qui est écrit dans les livres. Et il y a une tendance aussi comme ça à ne faire.
Que les livres ne sont pas que la yeshiva, hein.
Oui.
Non, mais on peut penser qu'à la maison. Le canal mimétique, bon, évidemment, je l'ai simplifié en disant qu'il y a les livres d'un des deux et le canal mimétique. Mais le canal mimétique, ça peut être étudié à la maison, dans un livre. L'idée, c'est qu'on a des livres ici, dans un autre lieu que la maison, qui nous disent quel est le minhag de la famille. Et qu'on valide cela comme ce qu'on a toujours fait. C'est ça qui est. Enfin, ça peut arriver. Donc. Évidemment que les livres peuvent permettre de compléter la connaissance qu'on a. Je dis juste qu'il y a un équilibre qui existait, qui existe enfin, et aujourd'hui il existe un autre type d'équilibre, mais qui donne beaucoup plus de poids à un lieu qui est devenu sanctifié, qui est la yeshiva, et je ne le déplore pas. Chaim Soloveitchik le déplore, lui qui est un homme de yeshiva. D'accord ? Donc je vous ai cité Chaim Soloveitchik, pour pas vous citer un anthropologue un peu fâché avec ses parents et sa religion, etc. Hein, j'ai pas fait ça. J'ai cité Chaim Soloveitchik et on sait où il a étudié, on sait où il habite, pour montrer que même lui, il pense que il aurait fallu continuer à valoriser les deux canaux. Et il considère, lui, que c'est déséquilibré aujourd'hui.
Si j'ai bien compris votre intervention, dont je vous remercie par ailleurs, qui était très claire, enfin, si je l'ai bien compris, ça sera encore plus clair, c'est la question est posée quand il y a une dissonance ou une contradiction entre l'enseignement par les livres ou scolaires et l'enseignement par le mimétisme. Et à ce moment-là, dans ces situations de dissonance ou de contradiction, quel est le poids relatif que l'on va donner à chacun des deux dans, finalement, les conséquences que l'on va appliquer. Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième, pour savoir si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Ma deuxième question, elle, est peut-être moins pertinente, autant que la première l'ait été. J'aimerais savoir, si vous êtes en mesure de le dire, ce que le raisonnement juridique, qu'il soit lié au droit talmudique ou à d'autres formes de droit, peut avoir à dire ou comment il se débrouille avec la question du juste par rapport au bien. Alors, je peux prendre un exemple. Alors, ben, c'est-à-dire, par exemple, comment doit-on vivre aux côtés des assassins ? Oui, c'est-à-dire qu'il peut être juste, par exemple, de punir l'assassin, mais l'assassin peut également être utile dans le fait que la majorité sont des assassins et que donc il faut vivre avec. Comment est-ce qu'on va réconcilier les deux ? Je suis clair ou je ne suis pas clair ?
Un assassin, c'est quelqu'un qui est reconnu coupable d'assassinat ?
Oui.
Ou bien c'est au sens non
juridique ? Enfin, la situation est posée notamment dans les situations de génocide où la majorité de la population a été assassin et où donc, d'une certaine manière, il faudrait condamner un grand nombre de gens. Mais si on condamne un grand nombre de gens, alors il n'y a plus personne dans la société puisque la majorité des victimes ont disparu et donc ils se retrouvent dans un univers vide. Donc comment est-ce qu'on résout cette question-là dans le par le domaine du raisonnement juridique, est-ce qu'il a quelque chose à en dire ? Mais de manière plus générale, on est parfois dans des situations où il serait juste de punir, mais finalement, il est peut-être mieux d'aller vers une situation pacifiée et qui implique de renoncer à la justice en partie ou en totalité. Ouais, je ne sais pas si ma question est pertinente. Si elle ne l'est pas, je ne me blesserai pas que vous me disiez que c'est.
Je vais essayer de répondre un petit peu. Il existe en droit, donc dans le raisonnement juridique,
des principes qui peuvent nous éviter de les considérer comme des assassins. Par exemple, la présomption d'innocence, qui devrait être rappelée aux journalistes qui parlent parfois du présumé coupable, etc. Enfin, je parle de ces journalistes-là. Il y a des principes talmudiques également. Vous savez, avant de condamner quelqu'un en droit talmudique, il faut se lever tôt. C'est très compliqué. Donc, il y a même des principes qui disent qu'il vaut mieux parfois que quelqu'un soit fait comme une faute de manière inadvertante, par inadvertance, pardon, que de manière intentionnelle. Donc, l'intérêt, si vous voulez, du raisonnement juridique et du droit, c'est son caractère artificiel. Mais on a tendance à opposer droit et morale. C'est normal. Mais dans les droits normaux, pour reprendre Guénon, tous les droits contiennent de la morale. Tous les droits. Donc de nouveau, si vous avez une éthique, elle est intacte dans le droit. Intacte. Donnez-moi une valeur morale qui n'existe pas en droit. Une. Je vais même vous dire pire que ça. Donnez-moi une valeur juive qui n'existe pas ailleurs. Moi, je veux bien parler des valeurs juives, mais j'en connais pas. En revanche, les valeurs étant largement distribuées, elles sont organisées un petit peu différemment dans le droit, mais elles ne sont pas supprimées. Donc tous les outils de la morale, il y a beaucoup de courants en morale, que vous pouvez utiliser, vous pouvez encore les utiliser en droit. Vous ajoutez simplement à votre panoplie, c'est pas une panoplie du coup, vous ajoutez simplement à vos outils des outils un petit peu artificiels du droit qui permettent de requalifier des situations. C'est-à-dire de faire comme si quelqu'un qui a tué n'avait pas tué. Et donc ça permet de pacifier. Vous pouvez tordre la réalité avec le droit. Du point de vue moral, c'est plus compliqué. Mais vous disposez de nombreux outils, comme l'assimilation. Pas l'assimilation au sens religion-assimilation, mais l'assimilation d'une catégorie à une autre. Donc, je n'ai pas réfléchi à cette question de comment on ferait pour vivre dans une ville où la majorité des gens ont tué. Je n'ai pas d'idée particulière là-dessus. Si ce n'est qu'on peut les présumer innocents tant que techniquement, ils n'ont pas été reconnus coupables. Mais nous savons qu'ils ont tué. Soit. Ces outils juridiques peuvent l'emporter sur notre connaissance par ailleurs. Ce que dit le droit n'est pas forcément ce que nous savons. Et le but du droit n'est pas de refléter la réalité. C'est pour ça qu'on relâche des gens qui ont tué pour des vices de forme. Et ça donne lieu à des bons livres policiers ou films policiers. Mais comme disait Blackstone, il vaut mieux 100 criminel en liberté qu'un innocent en prison. Bon, il y a beaucoup de variations de cette formule. Donc, on peut utiliser des outils de ce genre parce que du coup, tant qu'il n'a pas été reconnu coupable, finalement, il n'y a aucune raison que je n'achète pas chez lui, que je n'entretienne pas avec lui un rapport normal. J'irai dans cette direction éventuellement.
Ça veut dire s'interdire de le reconnaître coupable dans ce genre de situation.
Non, mais c'est pas symétrique. C'est pas moi qui reconnais coupable, à moins que je sois juge. C'est que tant que le juge n'a pas reconnu coupable, qui suis-je pour le reconnaître coupable ?
Oui, mais...
Judiciairement.
Oui, mais est-ce que, puisqu'on sait qu'il est coupable...
Est-ce qu'on le sait ?
Est-ce qu'on doit interdire au juge de se saisir de l'affaire parce que, justement, c'est la condition de la paix civile.
De toute façon, si on parle du droit talmudique, il sera quasiment impossible de sanctionner un assassin. Mais l'exemple est connu de quelqu'un qu'on voit sortir d'une pièce avec un couteau sanguinolent, quelqu'un d'autre en train de mourir, tant qu'on n'a pas... On sait qu'il l'a tué, on le sait, mais on ne l'a pas vu. Donc il n'est pas condamnable. Alors qu'on le sait, aujourd'hui c'est un petit peu différent. Il y a l'intime conviction, il y a d'autres outils. Mais en droit talmudique, on peut toujours s'arranger pour ne pas appliquer une peine. Enfin, il me semble. De fait. Donc, autrement dit, on va déplacer la charge de la preuve. Ce n'est pas à vous de modifier votre comportement si vous pensez savoir quelque chose. Vous pouvez continuer, je suppose, à entretenir avec quelqu'un un rapport normal tant que le juge ne s'est pas prononcé. Or, le juge, il est tenu par la présomption d'innocence. Puisque la présomption d'innocence interdit au juge de le condamner sans preuve. Et les preuves étant quasiment impossibles à réunir. Donc, en un sens, le droit permet d'enrichir la morale. Elle ne lui retire rien. Alors qu'on oppose souvent les deux, ce qui est un drame. Puisque le code civil est pétri de morale. Le code civil français, pétri de morale. Si vous le regardez d'un peu plus loin, c'est un code extrêmement moralisé. Est-ce qu'on n'a pas dans le code civil des obligations naturelles? Obligations naturelles. Dans une civilisation aussi individualiste que la nôtre, il faut, et j'en suis bien content, nourrir ses parents, s'ils sont dans le besoin. Ah, je pensais qu'on était dans un individualisme. Ce n'est pas... La morale et le stoïcisme et le christianisme sont omniprésents dans le droit français. Donc il est très moralisé. Ce droit qui vous semble peut-être inhumain ou immoral, il est pétri de morale. Mais la loi est nettement insuffisante par rapport au raisonnement juridique. La loi, ce n'est que la photographie de l'état final, d'un état final. En fait, c'est très faible, la loi. Et ce qui se passe, c'est que le judaïsme est assimilé depuis la traduction dans la Septante de Torah par Nomos, et puis depuis Paul, qui reprend cette traduction, le judaïsme est assimilé à une loi. Alors évidemment, c'est pas très attirant. Mais c'est beaucoup plus qu'une loi. C'est un droit, et c'est le christianisme qui est étrange. Le droit talmudique, c'est un droit normal. C'est un droit qui concerne tout le monde, qui est enseigné à tout le monde, dont on parle tout le temps. Il va bien. Merci beaucoup. Il va très bien. C'est le droit occidental qui est anémié, qui n'ose pas parler, se parler, s'enseigner, qui est exsangue. C'est le droit occidental, c'est pas le droit talmudique. Le droit talmudique, il me semble en pleine santé. Enfin, là, je réponds pas à votre question, mais j'ajoute.
C'est pas de gauche, Nicolas.
Oui, alors merci beaucoup pour cet exposé avec lequel je me sens en accord par bien des points, et merci comme membre du comité d'avoir comme ça au pied levé remplacé Danny Ptrom, c'est impressionnant. Alors il y a des choses enfin que je voudrais vous amener à préciser, enfin pour qui ne sont pas claires à moi. Bon, la référence à René Guénon. Bon, outre qu'elle, ce n'est pas un personnage que j'apprécie pas particulièrement, ni sa pensée, mais enfin, ça peu importe. Mm-hmm. S'il apporte des concepts intéressants, pourquoi pas. Mais est-ce qu'il n'amène pas à reproduire cette polarité qu'on voit tout le temps dans les discours sur le judaïsme entre Occident et judaïsme qui ne serait pas Occident? Alors ce serait quoi? Est-ce que c'est l'Orient, enfin, l'Orient de pacotille, à mon avis, de René Guénon? Enfin, là, je suis peut-être un peu brutal, mais qui est d'ailleurs très occidental. Ça, c'est un point sur lequel je voulais vous amener à vous expliquer, parce que cette rupture, peut-être... serait au fond qui est le soubassement de tout votre raisonnement. Si elle était un peu inquiétée, vous amènerait peut-être à reconsidérer le rapport des juifs au droit. Et deuxièmement, il y a une chose, mais sans doute que je n'ai pas comprise, vous dites que le christianisme prend un droit romain qui est sécularisé, mais le droit romain n'est pas forcément sécularisé. Ou alors, j'ai mal compris la cheville. Et par ailleurs, ma dernière question, c'est... Bon, vous avez dit en passant que la halakha, effectivement, c'était le droit privé.
En grande partie.
C'est aussi un droit qui a enfin, qui est aussi a pour vocation de rapprocher celui qui l'adopte ou qui en adopte les règles d'Hachem. Enfin, il y a un sens, il y a un sens qui ne se réduit pas à l'organisation, au droit civil tel qu'on le pratique dans la société française actuelle. Voilà, est-ce que vous pourriez préciser ce que vous voulez dire quand vous dites que la race est du droit privé, en grande partie?
Oui, ce n'était pas aussi pour opposition à droit public. Oui. Ce n'était pas par opposition à droit religieux. Si vous voulez, Dieu est une personne. Donc, on peut le fondre dans le... Alors, merci pour vos observations. D'abord, concernant René Guénon, je n'ai pris de René Guénon que l'opposition entre civilisation normale et anormale. Je n'ai pas du tout pris à mon compte ni ses positions politiques, ni le contenu qu'il met dans la tradition primordiale. Je ne me suis même pas prononcé sur la nature de cette tradition primordiale. Je reprends juste l'idée qu'il y a des civilisations normales et anormales. Et j'utilise ces distinctions pour parler d'autre chose. Donc, je ne parle pas de l'Orient, etc. Donc, pour Guénon, c'était un emprunt circonspect d'une opposition, simplement. Pour le christianisme, prend le droit romain. En fait, je n'ai pas dit ça, mais ça tombe bien que vous le disiez, parce que c'est ce que dit Rémi Brague. Rémi Brague dit que le seul genre littéraire absent du Nouveau Testament, étant le genre juridique, et il faut le dire vite, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'allusions, comme dans Les Misérables, d'allusions au droit dans le Nouveau Testament, mais, dit-il, le christianisme a pu avaler le droit romain pour le recracher ensuite. C'est sa métaphore. Hein. Ce que je disais, c'est que l'Occident est le fruit d'une combinaison entre d'une part une religion, d'autre part un droit. Cette religion est déjuridicisée, c'est le christianisme. Ce droit est laïcisé, je m'appuie sur Schiavone. Schiavone explique que dans l'histoire du droit romain, le droit s'est progressivement laïcisé et est devenu l'affaire de professionnels, et que ces deux conditions ensemble ont conduit à la naissance du droit. Et je corrige, si je peux, à la naissance du droit romain, du jus, ce qui est intéressant, mais c'est moins spectaculaire que la naissance du droit. J'aurais plus d'autres tendances contre Schiavone à considérer que ubi societas, ibi jus, là où il y a une société, il y a du droit. Et donc le droit a toujours existé comme la langue depuis que les humains existent. Ça, c'était pour le christianisme et le droit romain. Donc, c'est plutôt la conjonction des deux. Ensuite, quand je dis droit privé, effectivement, si l'on projette sur le Talmud les catégories contemporaines de droit privé, alors ça ne rend pas compte du rapport à Dieu. Mais c'est du droit privé, je voulais simplement dire, par opposition au droit public. Donc on peut préciser que c'est un droit privé qui inclut un rapport à Dieu. D'ailleurs, dans les typologies des commandements, on distingue, ça génère certains effets, les commandements par rapport au prochain, et ben Adam la Chavero. Donc tout à fait, si c'est... J'adhère tout à fait à cette précision.
Merci beaucoup. Deux questions. La première, il me semble qu'il y a chez les maîtres du Talmud une méfiance très profonde, très ancrée à l'égard du droit, paradoxalement. Et je pense à deux textes qui associent l'application du droit strict à Khurban Yerushalayim, à la destruction de Jérusalem. Il y a un texte dans Baba Metzia, un texte bien connu dans Gittin, où Rabbi Zecharia ben Afkulas fait du droit. Hein, il fait du droit, puis on lui dira à la fin, bah, c'est ta faute. Si tout ça a été détruit, c'est bien de ta faute. Et à chaque fois, il y a cette notion de... Et Emidou d'Ivrem à Divrei Torah, ils ont fondé leurs paroles sur les paroles de Torah, oubliant la notion de l'ifnim meshurat hadin, qu'on peut alternativement traduire en delà ou en deçà de la, du cadre juridique. Donc il me semble que ça, c'est un point qu'il faudrait analyser, qu'il faut réfléchir, que on doit, justement, le droit ne doit pas être ne doit pas être le judaïsme, j'ai envie de dire, pour, avec un peu un trait d'humour. Il ne faut pas, parce qu'il y a là un danger. Il faut analyser ce danger. Ça, c'est la première question, je soumets ça. La seconde, c'est que, pour revenir sur le droit comme propriété, finalement, de la Torah, comme une propriété spécifique, il me semble que c'est le Sinaï qui joue ce jeu-là, finalement. Parce que, finalement, prenons un sujet... disons, l'arsenal juridique destiné aux nations est assez limité. Si on compare cette loi à 613, effectivement, ça ne fait pas de loi. Mais allons plus loin. Il se trouve qu'on étudie en ce moment des sujets de mariage. De manière très caractéristique, dans la Torah, il n'y a pas de formalisme juridique pour le mariage d'un non-juif avec une non-juive. En revanche, et c'est Rambam le décrit très bien au début des lois de Ishout, il dit, ce qu'innove la Torah, c'est de faire du lien marital un lien juridique. Donc il me semble que si il n'y a pas de volonté de présenter les nations comme s'appropriant le droit ou en étant mu par le droit, c'est presque pour dire que justement c'est là le chidouche du Sinaï qui n'est pas celui des nations.
Est-ce que c'est pas formalisé plutôt juridique ? Est-ce que la spécificité du mariage juif n'est pas d'être formalisé plutôt que d'être juridique ? Est-ce que le droit ne peut pas accommoder la distinction entre un mariage non formalisé et un mariage formalisé ? Plutôt que de dire que le juridique est d'un côté, puisqu'il y a tout de même des conséquences, l'adultère est interdit. Dans les sept lois d'Orachim, c'est bien qu'il y a un mariage, ou un couple, ou quelque chose. Donc en fait, c'est reconnu, mais ça ne présente pas, ça n'exige pas les mêmes formalismes. Donc c'est une distinction, finalement, de deux types de droits, ou de contrats,
d'union juridique. L'une requiert, a priori, d'être formalisée. J'ai ajouté a priori, parce que je crois que ça génère tout de même des effets. Le couple non formalisé, mais qui vit ensemble. Et d'autre part, l'union qui ne requiert pas d'être formalisée. Donc tout ça reste à l'intérieur du droit, je pense. Alors merci beaucoup pour ces questions. Oui, il y a une méfiance à l'égard du droit. C'est ce qu'on pourrait appeler un antiformalisme. Non, la grande différence, c'est que l'antiformalisme, depuis Yeshayahu, peut-être avant, jusqu'à aujourd'hui, il est interne au droit. C'est de l'intérieur du droit que l'on critique le formalisme au sens, pas au sens du mariage, au sens de l'application un petit peu aveugle ou mécanique de la loi, ou de l'hypocrisie, des sacrifices dans Yeshayahu. Alors que depuis Paul, Jésus pas tellement. Jésus ne retirerait pas un iota à la loi. Mais depuis Paul, cet antiformalisme a connu une révolution, puisqu'il est devenu externe. C'est un regard moralisant qui est porté sur le formalisme. Et donc, la bataille n'est plus équilibrée. It's unfair. Puisque le christianisme porte un regard critique, antiformaliste, sur le judaïsme, mais de l'extérieur du droit. Et c'est évidemment toujours gagné d'avance de critiquer moralement un droit, puisque le droit, il doit gérer les gens, les populations, tous les droits distinguent entre eux et nous. Donc, la distinction entre les gens qui sont à l'intérieur et les gens qui sont à l'extérieur, à ma connaissance, existe dans tous les droits. Donc, s'il faut juger le judaïsme dans ce qu'il a, dans les décisions, les applications les plus mécaniques, c'est en le comparant à d'autres droits. Et donc, l'antiformalisme dont il est question dans le Talmud, pour moi, il est très différent de l'antiformalisme tel qu'on le connaît en Occident et qui est de facture chrétienne. Puisque dans le Talmud, c'est un antiformalisme à usage interne. Quand Dieu dit ou quand on fait dire à Dieu qu'il ne veut pas de ses sacrifices, est-ce que ça veut dire qu'il ne veut pas de ses sacrifices ? Ou ça veut dire qu'il veut de ses sacrifices, mais mieux fait ? Ça n'a plus aucun rapport avec le fait qu'il y a des interdits tout à fait clairs dans le judaïsme qui sont, je n'ose pas dire abrogés, parce qu'on ne dispose pas de l'acte d'abrogation, mais qui de fait sont abrogés dans le christianisme. Donc, de nouveau, vous allez me dire que c'est facile de dire ça, mais le droit contient la doctrine et la critique du droit. Ça fait partie des sources du droit. Critiquer une application du juge, une décision du juge, c'est l'une des quatre sources du droit. C'est du droit. Dire que cette décision est mauvaise ou injuste, ça fait partie du droit. D'ailleurs, ce sont des juristes qui écrivent ces articles. Ça fait partie des genres littéraires juridiques. Et donc, qu'il y en ait eu dans le droit talmudique, dans le Talmud, c'est la moindre des choses. Un droit en bonne santé génère des correctifs, des critiques de certaines décisions. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, ce n'est pas un rejet du droit. Il y a une grande différence entre un antiformalisme interne au droit et un anti-juridisme. Le christianisme a fait ce petit pas de plus qu'a fait également Spinoza. Il est passé d'une critique interne au droit à une critique externe au droit, qui n'est plus une critique qui voudrait que l'on applique mieux les commandements à l'intérieur du système, mais d'une critique post-juridique. Vous savez, la Révolution française s'appelle Révolution. Mais finalement, on est passé d'un système juridique à un autre système juridique. Ça va encore, en termes de transformation. Le christianisme, c'est beaucoup plus cosmique. On part d'un système juridique et on génère un système post-juridique. Donc c'est 10 fois la Révolution française. Donc l'existence d'un antiformalisme à l'intérieur d'un droit est tout à fait bon signe. Le problème, c'est l'antiformalisme qui conduit à l'anarchie ou à la destruction du système. Mais l'antiformalisme qui propose un correctif ou une critique, tout ça, c'est un signe de bonne santé d'un organisme qui génère des anticorps, mais qui poursuit son fonctionnement. Donc je ne serais pas trop inquiet, pour prendre votre terme, par l'existence d'un antiformalisme à l'intérieur même du Talmud. Le terme inquiété.
Vous avez répondu sur le fait que de votre point de vue, la codification ou la mise par écrit de la loi orale n'expliquait pas à elle seule ce retrait, en tout cas ce recul de l'approche mimétique. Il y a une chose qui semble aller dans votre sens. Vous disiez tout à l'heure, l'idée de l'approche mimétique, c'est de mettre la loi juive à la table de la famille, à la table domestique. C'est le nom même du code par excellence de la loi juive, qui est le Shulchan Aruch, donc avec cette idée de table dressée. Et donc ça irait plutôt dans votre sens. Il y a un joli commentaire de Manitou sur le rachis du premier verset de la Parasha Mishpatim, qui dit en substance, c'est pas parce que c'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'on observe le commandement, c'est parce qu'on observe le commandement que c'est écrit dans le Shulchan Aruch, comme si l'action précédait la mise par écrit, ou en tout cas la codification de la norme. Mais ceci étant, on peut quand même pas s'empêcher de penser que cette codification, par la normalisation qu'elle suppose, accélérée par le développement de l'imprimerie, la diffusion des textes, etc., etc., elle conduit à l'instauration d'une forme de droit de spécialiste, ou parce que, disons, l'impression, elle a un double effet. L'impression, elle a pour effet de démocratiser, donc on pourrait se dire d'une certaine façon, elle appartient à plus de monde, mais d'un autre côté, elle fige à très large échelle la norme elle-même. Et donc, il y a sans doute un effet un peu de dynamique contradictoire.
Et donc on peut penser quand même qu'il y a une forme de spécialisation du droit liée à cette codification. Mais en prenant votre réponse telle quelle, quel lien vous faites entre cette ambivalence vis-à-vis du droit et ce recul de l'approche mimétique et la situation d'exil, qui est au fond la cause fondamentale de la mise par écrit de la loi orale à un moment donné? Et est-ce que vous diriez que cette ambivalence, elle est au fond intrinsèque à l'exil? Et question corollaire, est-ce que vous en concluriez que le retour, même imparfait, à une forme de souveraineté juive, ou en tout cas d'exil non subi, conduit ou pourrait conduire à une restauration de cette approche mimétique que vous appelez de vos voeux?
Merci beaucoup pour cette question, à laquelle je ne vais pas pouvoir répondre de manière satisfaisante, parce que je n'ai pas pensé, non pas que j'ai pensé à toutes les objections précédentes, mais ça dépend de comment ce sera fait. Le fait que la fin de l'exil ne nous dit pas encore grand-chose de la manière dont le droit sera appliqué. Donc ça dépend. Tout reste à faire.
La restauration de Sanhedrin, quand même, est...
Oui, mais ça dépend aussi de comment ce sera fait. Est-ce que ceux qui le feront vont injecter dans cet exercice des catégories occidentales? Vous savez, le droit israélien, il est tout de même pétri de droits occidentaux. C'est pas en quelques années qu'on va se défaire d'habitudes occidentales dans notre rapport au droit. En vérité, c'est très très compliqué. Pardon ?
Il le faut.
Est-ce qu'il le faut ?
Oui.
Est-ce qu'il le faut? Mais ça dépend. En tout cas, si on veut renouer avec un rapport pacifié au droit, ça risque d'être compliqué avec le logiciel occidental. Puisque c'est son objet et son effet, de nous séparer du droit. Donc je dirais, je ne sais pas. Ça peut constituer un facteur, mais en tant que tel, ça dépendra de la manière dont c'est fait. Concernant le Sanhedrin, s'il est d'application, alors l'idée était quoi? Que le rapport sera pacifié du coup?
En tout cas, on ne peut plus s'enfermer dans des... Si je veux dire.
Pardon?
C'en est fini de confinement au livre que tu décris. On est obligé de repenser la loi. Voilà. On est obligé de la repenser, de la mettre au vote. Ça ne peut plus émaner d'un seul individu, ça émane nécessairement...
Non, c'est les votes des juristes, des sachants. Moi, ma question, c'est comment fait chacun dans son rapport au droit? Est-ce que, même si on érigeait le Sanhedrin, est-ce que le rapport de chacun, c'est que j'ai parlé de l'université, puis de la maison, puis de son intimité, je ne sais, ça dépendra vraiment de la manière dont ce sera fait, si c'est fait, un jour. Voilà. Je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais on n'est pas obligé d'attendre la fin de l'exil pour réfléchir un petit peu différemment à renouer avec le droit sans devenir policier ou juge. Je souhaiterais que les gens qui aiment que plus de gens aiment le droit et que ce ne soit pas uniquement des gens qui ont des pulsions de l'appliquer eux-mêmes. En fait, le réintroduire ou l'introduire dans la culture générale. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait des gens très cultivés. Et c'est pas seulement qu'ils étaient illettrés juridiquement, c'est que ça ne posait de problème à personne. C'est ce que dénonçait Snow dans sa conférence des deux cultures. C'est que quelqu'un est ignorant en physique, ça ne pose de problème à personne. Il est à l'académie de française ou autre. Et il n'y a pas de lacune. Et le droit, également, aujourd'hui. Et je crois que ce sera... C'est pas facile, mais tout de même, ce sont juste des habitudes. De temps en temps... lire un morceau du Code civil, non, c'est pas l'idéal. Je pense plutôt à la doctrine, à la réflexion sur le droit, y compris les juristes. Les juristes n'aiment pas tellement parler de leur pratique. Hein. Est-ce que les juristes dans la salle, à des amis non-juristes, parlent de leur cas?
Sans facturer, tu veux dire.
J'aurais dû préciser, est-ce que les juristes dans la salle ont des amis? L'ami étant celui à qui on ne facture pas.
Ça reste à
trouver.
Oui.
Qu'est-ce que tu as dit?
Je réponds un petit peu comme ça, mais je sais que c'est pas, je pense, satisfaisant. Mais bon, la question est massive.
Moi, c'est une question un peu générale. Je comprends bien que vous avez montré le rapport ambivalent au droit dans le christianisme et à la réponse à M. Tsedbon aussi. Donc, vous avez montré donc, le rapport moralisant. Et au fond, ma question, ça serait de savoir dans quelle mesure on peut dire que le judaïsme a été profondément ou pas marqué par ce christianisme. C'est une question trop vaste, bien sûr, mais...
Non, il a été...
Sur ce point précis, je veux dire, bien sûr.
Alors, je pense que il est surdéterminé que le judaïsme a été transfiguré
par le christianisme. On dit souvent, pour aller vite, je ne sais pas pourquoi on veut toujours aller vite... qu'on peut penser le judaïsme sans le christianisme et pas le christianisme sans le judaïsme. Mais bonne chance pour penser le judaïsme sans penser à l'effet du christianisme sur notre rapport au droit.
Mais seulement sur notre rapport.
Ah non, il a une influence considérable à plein d'égards. Vous voulez... Là, je me suis concentré un petit peu sur le droit. Vous m'interrogez sur l'influence du christianisme en général ?
Non, non.
Parce que...
Sur le terme de la moralisation.
Mais disons que la morale préexistait au christianisme. Mais elle vivait en bonne convivialité avec le droit. Voire, elle fait partie du droit. La spécificité chrétienne n'est pas la morale. C'est la moralisation non juridique du droit. La morale et le droit existaient, mais la dimension juridique étant amputée, on ne dispose plus que d'une morale et donc... d'une vocation à donner à cette morale des objectifs démesurés. Et donc on a une éthique, comment dire, s'est développée au XXe siècle, une éthique de la transcendance qui le dispute avec les meilleures métaphysiques, mais qui ne sont guère applicables. Au cas le plus simple. Donc, et je crois même que ça peut présenter un certain danger d'avoir une morale à ce point ambitieuse. En fait, le droit est moins ambitieux que la morale. Et le droit.
Non, oui. La question, ça, je comprends bien. La question, est-ce que ça transparaît, par exemple, selon vous, dans une réflexion juive, dans les commentaires juifs, dans la Torah orale? Est-ce que ça a percé
jusque-là,
c'est ça?
Disons, ça a un effet direct, par exemple, quand vous regardez ce qu'on traduit en français. C'est un fait sociologique, mais il y a des textes très importants de la tradition juive qui sont traduits je ne sais pas combien de fois. Pirkei Avot doit avoir connu une vingtaine de traductions en français. Et tant mieux, c'est un texte capital. Tout ce qui ressemble à la morale sera promu. Et ce qui ressemble plus à du droit, je veux dire, on a, à ma connaissance, on n'a toujours pas traduit en français en intégralement le Mishneh Torah. Si on prend du recul par rapport aux 20 traductions de Pirkei Avot et pas encore une traduction entière du Mishneh Torah, c'est l'effet de quoi, au juste? Enfin, je veux dire, quel mot on peut mettre pour expliquer cette...
C'est pas seulement le christianisme, parce que ça existe en anglais.
Ah ben, les anglophones sont... Chrétiens. Les anglophones sont chrétiens aussi, sauf erreur de ma part. Donc, ils font partie de l'Occident. Mais en anglais, vous savez quoi? En anglais, on traduit plus de textes juridiques. C'est bête, hein, mais... Bon, ils sont plus nombreux, d'accord, mais... Menachem Elon est traduit depuis 50 ans en anglais. Ce n'est pas un hasard. Hamishpat Haivri, il est disponible dans beaucoup, beaucoup de maisons
juive new-yorkaise, vous avez Jewish Law en 4 volumes. C'était 3 volumes en hébreu, mais c'est 4 volumes en anglais. Et en francophonie, les choix éditoriaux sont tout à fait déséquilibrés. Tout à fait déséquilibrés. Je ne sais même pas si le Midrash Halakha est traduit en français. On a plein de Midrashim traduits dans les meilleures collections. Et c'est une très bonne chose. Je dis juste que la société dans laquelle on vit récompense notre production qui fait l'impasse sur le droit et ne récompense pas, par exemple, ne favorise pas la recherche sur le droit parce que c'est entre plusieurs catégories. On vous dit non, vous devez publier ça chez des études, dans des études religieuses. Mais les études religieuses chrétiennes qui ne s'occupent pas de droit n'ont que faire du rapport au droit. Une édition juridique, vous allez chez Dalloz ou LGDJ, ils n'ont que faire du rapport au judaïsme à travers le droit. En fait, il n'y a pas d'endroit, il y a peu d'endroits où on invite les auteurs à s'exprimer là-dessus. Il y a peu de colloques sur le droit talmudique. À ma connaissance, si vous faites le nombre, vous comparez le nombre de colloques qui ont eu lieu sur des auteurs tout à fait intéressants, et le nombre de colloques intéressants, je veux dire Levinas et autres, et Ancionas, et Rosenzweig et Buber, et c'est complètement déséquilibré par rapport à la quasi-absence de travaux sur le droit talmudique. J'espère que ça changera. Non pas qu'on fasse moins de ceci, mais à compulser une bibliothèque, à compulser une librairie, une grande librairie ou une bibliothèque universitaire, eh bien, on devrait conclure que le judaïsme est une religion beaucoup plus proche du christianisme. Qu'il n'y a pas, les midrashim ne sont pas exactement les mêmes, mais le genre littéraire général.
De l'islam ?
Non ? À compulser une bibliothèque. Si vous lisez, vous regardez quels sont les livres qui portent sur le judaïsme dans une bibliothèque, eh bien, normalement, sans étudier le judaïsme, on pourrait conclure que le judaïsme, bon, a priori, c'est comme le christianisme, mais avec des midrashim un peu différents. Ce ne sont pas exactement les mêmes midrashim. Le Nouveau Testament, c'est un grand midrash. Donc on n'a pas exact. Mais les genres littéraires seraient les mêmes. Alors que, au cœur du christianisme, au cœur du christianisme, il y a le Nouveau Testament qui est un midrash agada. Au cœur du judaïsme, on a le midrash halakha et le midrash agada. Mais d'un point de vue éditorial, les éditeurs font de la fine bouche quand il s'agit de droit. Oui, peut-être parce que ça ne se vend pas, mais ça, c'est une pétition de principe. Parce que si jamais on en publie, ça ne se vendra jamais. Mais on a un déséquilibre dans l'accueil qui est fait au texte qui porte sur l'éthique amputée du droit, et je vais le dire comme ça, et l'éthique dans le droit. Parce que l'éthique juive, à mon avis, elle est insérée dans la souga. Il y a une éthique juive dans les sougiotes, mais c'est une éthique qui est articulée au droit. Et donc, je le perçois très très fort dans les choix éditoriaux. Donc là, je vois les éditions Schottenstein, et c'est vrai que de plus en plus de textes sont accessibles en français, qui portent sur le Talmud, y compris sur le droit talmudique. Je relève que nombreux d'entre eux ne sont pas publiés dans des collections universitaires. Schottenstein et d'autres ne sont pas des collections universitaires. Donc les collections universitaires pourraient nous convaincre, si on compulsait leur catalogue, que le judaïsme ressemble beaucoup plus, que le judaïsme ressemble beaucoup plus au christianisme qu'il ne lui ressemble en vérité. Et en un sens, je pense que Paul a gagné, pour l'instant. Paul a gagné en tout cas, dans le sens que nous avons assimilé l'idée que le judaïsme était là où on nous disait qu'il était. Et donc je veux juste compléter la littérature, non pas supprimer, mais compléter la littérature. C'est juste un symptôme d'une considération très globale. Donc, je m'excuse pour le caractère un petit peu approximatif de mon propos et très très général. Mais voilà, on a programmé cette intervention très tardivement.
Encore des questions, tu peux ?
Oui, bien sûr. Ce n'était pas une manière de...
Je ne sais pas si je vous ai répondu. Si, si. Vous n'êtes pas d'accord.
Livre de Haggadah pour un livre de Halakha. Et quand c'est un livre de Halakha, c'est un livre de loi, pas de raisonnement. Un livre de loi qui vous dit tel poisson, oui ou non, tel acte, oui ou non. Et dans quel livre en français est-ce qu'on apprend à raisonner juridiquement comme on le fait dans le droit talmudique ?
Si je puis me permettre.
Oui.
Il me semble qu'il y a des endroits bien précis où ces questions ressortent. Mais c'est. Dans la confrontation, les sages ont voulu appuyer et voulu mettre en exergue leur position. Donc, la confrontation avec le christianisme les a obligés à préciser leur position, voire à prendre des... Mmh. Il me semble qu'il y a un exemple qui vient à l'esprit, il y en a d'autres, c'est la Arava. Dans le traité de Souka, on voit que la Arava, à certaines circonstances, ils ont voulu faire exprès qu'elle ressorte et que le Shabbat elle soit pratiquée au temple. Et c'était là-bas, dans un souci de mettre en avant... cette loi qui n'est écrite nulle part, qui est un halakha le Moshe Mitsinaï, pour ne pas risquer que des opposants, les Baïtoussim, si on les considère ou non comme des prédécesseurs du christianisme, prennent le dessus. Donc il me semble que cette confrontation a conduit les sages à formaliser des lois, mais plus comme une affirmation de leur position que comme... Alors, c'est une proposition. Comme une... Ils ne se sont pas forgés par cela, quoi. Ou à l'envers.
Il n'annonce pas également les karaïtes.
Dans la Souga, là-bas, c'est les baïtes aussi. Mais il y a d'autres exemples. Sfirat HaOmer, en particulier, où c'est un peu peut-être plus fort avec le christianisme, où il y a une volonté de dire des textes en disant on affirme bien qu'il s'agit Shabbat ayom, etc. Quoi. Donc il y a ces points-là de contention qui sont mis en exergue, qui sont mis en avant, qui ne sont pas dissimulés, d'ailleurs, contrairement à ce que certains universitaires ont envie de faire croire. Mais qui ont conduit à plus à affirmer leur position qu'à faire naître un droit autonome qui sortirait de la norme juive. Proposition.
Merci beaucoup pour le cours. Deux petites questions. Une question, c'est par rapport au cas où il n'y a pas de... On a un témoignage, mais circonstanciel, donc on ne voit pas vraiment le meurtre avec un témoignage adéquat. Parce qu'il y a un Ran qui parle de la mitzvah de mettre un roi. Et le Ran dit que toutes les lois, en fait, elles sont ou d'origine divine ou alors d'origine humaine. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un système judiciaire qui soit pas du tout religieux, en fait. Et que, c'est sous ce système judiciaire qui est voulu par la Torah elle-même, où on va réprimer les crimes qui peuvent paraître évidents, mais avec un esprit juridique très rigoureux, ils ne peuvent pas être réprimés. Et aussi, donc pour le droit israélien aussi, ce serait peut-être l'idéal, d'après la vision juridique du Talmud, que le droit en Israël soit justement laïque, puisqu'on considère qu'il y a le droit du roi et le droit d'origine divine. Et la question, c'est, est-ce que ce droit-là, qui d'après l'Oran, est en fait une bonne chose? C'était reproché dans le livre de Shmuel de vouloir un roi parce qu'il voulait que le roi ait le rôle finalement du chauffet, ce que Laurent essaie d'expliquer. Mais si le roi a un rôle complémentaire et il vient seulement s'ajouter à la Torah en étant soumis à la Torah, au contraire, il faut qu'il utilise des raisonnements d'organisation rationnelle de la société. Et on considère que oui, s'il y a un crime, même s'il n'y a pas de hatra, il n'y a pas de témoignage parfait, on va quand même réprimer les criminels et peut-être beaucoup d'infractions qui ne sont pas mentionnées dans la loi juive. On peut penser au viol ou à l'esclavage. Mais alors la question, c'est est-ce que le lien étroit qu'on considère, nous, entre, qui existe entre la loi et la morale, Est-ce qu'il existe aussi, en tout cas moi, est-ce qu'il existe aussi pour ce type d'organisation qui est donc faite par le roi, une organisation juridique de la société qui est faite par le roi et pas par pas d'origine divine par les rabbins? Ça, c'est une question. Et une autre question, c'est... Est-ce que ce lien existe aussi par rapport à cette organisation? On peut même penser à une valeur ultime, la valeur ultime qu'on donne naturellement à l'étude du bien et du mal. Est-ce qu'on devrait la donner aussi à cette partie en fait de l'organisation juridique d'une société, rationnelle juridique d'une société, qui n'est pas d'origine divine? Donc en fait, on a la Torah et la loi juive, mais après, il y a une lacune juridique en fait, qui est admise par le Ran. Et le Ran dit que c'est ça, la raison pour laquelle on a cette mitzvah de couronner un roi en tant que juif. En tant que société juive, on a une mitzvah de couronner un roi pour compléter cette lacune. La question, c'est est-ce que compléter cette lacune, ça va être aussi avec un lien étroit avec la morale, c'est-à-dire ce système. Est-ce qu'on peut avoir l'ambition qu'il soit une expression de loi morale, mais...
puisqu'il va permettre de trancher des cas qui ne peuvent pas être tranchés de la même façon sans ce système supplémentaire. Donc, a priori, en un sens, il permettra d'atteindre la justice dans des cas où le droit applicable au sens strict ne permettait pas, par exemple, de punir quelqu'un. Le droit pénal étant éminemment moral, je suppose, mais ça dépendra de la manière dont ce sera fait, qu'on peut envisager favorablement un lien étroit entre les deux.
Donc, par exemple.
À mon avis, le droit dépourvu de morale est un fantasme.
Voilà, oui. Bon. Mais...
C'est un fantasme qui a touché des auteurs après la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, bon, je vais vous dire quelque chose, j'espère que ça ne va pas vous choquer, mais. Beaucoup d'auteurs après la Deuxième Guerre mondiale, c'est pour attirer l'attention, beaucoup d'auteurs après la Deuxième Guerre mondiale ont dénoncé la manière dont les nazis ont appliqué la loi. Si vous lisez, par exemple, Johann Chapoutot, La loi du sang, il montre, donc c'est un historien contemporain du nazisme, il montre combien l'herméneutique juridique des juges nazis, elle est pétrie de morale. Qui est l'ennemi par excellence des juges, des juristes nazis? C'est le romaniste, c'est le droit romain et le droit juif, qui sont assimilés d'ailleurs, le droit judéo-romain. C'est le formalisme l'ennemi du nazisme. Et on nous fait croire depuis les années 50 qu'il faut enfin introduire la morale dans le droit pour se départir du droit nazi qui lui aurait été formaliste. C'est l'inverse. C'est tout à fait l'inverse qui est le cas. Le droit nazi était éminemment moral. Pas moral au sens où c'était bien. À mon avis, le problème principal du droit nazi, c'était une question de fait. En fait, ils raisonnaient... Ils appliquaient le din rodef aux juifs. Pardon ? Rodef, donc, si on nous attaque, on a le droit, voire le commandement, de détruire, de neutraliser, comme disent les journalistes, de neutraliser l'assaillant. C'est une loi dans le Talmud, dans la Mishnah. C'est dans Sanhedrin, explicitement. Mais les nazis considéraient que les juifs étaient un bacille, qu'ils étaient en danger, et qu'il fallait le neutraliser de manière préjudiciaire. Le rodef, celui qui nous attaque, on peut le neutraliser, voire le tuer, si c'est nécessaire, avant de porter l'affaire devant les tribunaux. Et bien de même, les nazis voulaient court-circuiter l'étape judiciaire, parce qu'on pouvait immédiatement détruire les juifs qui étaient immédiatement en danger. Donc l'idée même qu'il y a un droit sans morale, à mon sens, est née dans le cerveau de gens extrêmement marqués par la guerre, je ne leur reproche pas, mais qui ont mis au point une théorie du droit, pardon, mais qui ressemble à s'y tromper à la théorie nazie, c'est-à-dire un droit pétri de morale, qui n'est pas nazi. Ce sont deux approches différentes, mais il s'agit d'un homme de paille. Projeté sur les nazis, le formalisme, c'est un contresens. Ils étaient eux-mêmes complètement anti-formalistes. Et il n'y a pas eu, que je sache, un droit dépourvu de morale.
Donc la question, je ne sais pas même si on est obligé de trancher cette question. Le droit a toujours été accompagné par la morale, a toujours contenu en lui-même de la morale. Il a existé, notamment dans le christianisme, une morale sans droit. Et c'est dangereux, je pense. Mais de droit sans morale, je pense que c'est une vue de l'esprit. Donc, si je peux me montrer rassurant, a priori, toute chose égale par ailleurs, oui. S'il y a un droit mis en place par un roi qui compléterait le droit talmudique au sens strict, il y a fort à parier qu'il soit lui-même accompagné d'une morale, qu'il contienne une morale.
J'avais donc une autre question. C'est comment argumenter justement contre ce phénomène peut-être journalistique, politique ou populaire qui veut à tout prix dissocier le droit et la morale.
C'est le romantisme.
Oui. Alors comment argumenter, sachant que, enfin, est-ce que ce serait pas lié à une vision dans laquelle la liberté a une valeur excessive et toute vision d'autorité, d'hiérarchie ou souveraineté de la raison ou souveraineté divine doit être exclue. Parce que dans la vision de la souveraineté populaire, peut-être la volonté de l'individu, la liberté individuelle, elle a une telle place dans l'argumentation juridique et morale qu'il n'y a pas, de savant qui peut s'imposer avec une vision morale contraire à l'intuition populaire. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'on peut argumenter, parce que bon, moi je suis un peu défaitiste là-dessus, mais bon.
Non, mais disons que moi je serais défaitiste si pendant 100 ans on enseignait le raisonnement juridique et qu'on continuait à entretenir ce rapport contrarié au droit. Tant qu'on n'a pas essayé, et on n'a pas essayé du tout, je ne serais pas défaitiste. Donc.
Mais quand on essaye, on voit les réactions. Et...
Non, mais évidemment, si on introduit. En fait. Ça va susciter un rejet. Introduire le raisonnement juridique sur la table familiale va générer des résistances. Et ça ne marchera pas. Mais de temps en temps, ça marchera. Et normalement, dans une famille où il y a toute une partie des membres de la famille qui étudient le Talmud, ça se fait normalement à peu près naturellement. Y compris chez les membres qui n'étudient pas le Talmud. Ça peut arriver. La question, c'est est-ce que c'est une exception ou est-ce que c'est l'objectif ? Donc, moi, je ne serais pas du tout défaitiste. On n'a pas du tout essayé. Mais non seulement on n'enseigne pas le raisonnement juridique à l'école, mais même dans les universités, même dans les facs de droit. Ce n'est pas toujours le raisonnement juridique qu'on enseigne. On enseigne le droit. Là, pour le coup, nos voisins anglo-saxons ont beaucoup d'avance sur nous pour ce qui est de penser comme un juriste. Ils ont vraiment toute une littérature de très très bonne qualité pour nous entraîner à réfléchir sur des cas pratiques. Donc en un sens, et d'ailleurs on le voit chez les juifs anglo-saxons, le rapport au droit est très différent dans le monde calviniste. Et du coup le judaïsme se développe de manière très différente dans le monde anglo-saxon. Il est beaucoup moins marqué par cette dissociation. Il parle plus facilement de halakha, tout en parlant et en parlant d'autre chose. Il y a une souplesse, il y a une évidence que je ne trouve pas en terre continentale. Voilà ce que je dirais.
Merci beaucoup, parce que je ne connais pas le droit du tout. Je suis plus classée scientifique. Et effectivement, le droit, je connais très très peu. Je ne pourrais pas en parler. Juste une petite chose. Avec l'émancipation des Juifs au moment de la Révolution française, n'y a-t-il pas justement, par le fait d'accepter, que les Juifs acceptent de prendre les droits civiques qu'on leur propose? Finalement, est-ce que ça ne crée pas à ce moment-là une dissociation, c'est-à-dire on accepte les droits civiques, donc on va suivre un certain nombre de lois, qu'on accepte, qu'on reconnaît, et au fond, est-ce que la loi talmudique ne reste pas soit dans l'intimité du foyer, soit disparaît si l'émancipation aboutit à une assimilation. Ou... Voilà.
Tout à fait. Alors, c'est une étape cardinale de ce diagnostic. Tout comme citoyen, bien comme nation.
Oui, clairement.
Oui, mais je veux dire, ça dit tout de même très bien cette répartition des rôles qu'on impose sur, sur un système qui ne s'y prête pas. En fait, c'est une approche protestantisée du judaïsme.
Mais du coup, est-ce que ça n'aboutit pas justement, pour le judaïsme, français peut-être en l'occurrence, à une certaine distanciation du droit talmudique? Enfin, je sais que je ne connais pas non plus très bien le droit talmudique, mais en tout cas, comment peut-il vivre réellement, si ce n'est dans le cadre d'un foyer? C'est-à-dire, toutes les autres lois qui peuvent être discutées dans le Talmud, elles apparaissent où dans notre vie au quotidien?
Bon, ça dépend, parce qu'il y a des lois qui ne trouvent pas à s'appliquer dans le foyer, du tout. Et donc, ce serait tout de même demander beaucoup de parler de certaines règles qui régissent les sacrifices. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette étape. C'est un des clous du cercueil de notre rapport pacifié au droit. C'est certain. C'est bien décrit d'ailleurs par Katz. Jacob Katz, ça fait tout un bouquin qui parle de ces choses-là. Je suis pleinement d'accord.
La période napoléonienne, de consistoire, toutes ces choses.
Le Sanhédrin. Vous lisez le Sanhédrin, ils sont d'une finesse. Ils marchent sur un fil. Parce que c'est extrêmement compliqué. En fait, je crois que c'est déjà une étape importante, comme dans l'alcoolisme, pour filer la métaphore, de prendre conscience du fait qu'il y a un problème, du fait qu'il y a quelque chose de détérioré. C'est pas une garantie d'une solution. Je me contente juste d'évoquer. Ce qui me semble être brisé. Et d'ailleurs, quand des gens retournent à la religion, ou quand des rabbins veulent attirer ce qu'on appelle le kérouv, attirer les ouailles quelque peu perdues vers la tradition, que leur donnent-ils pour les appâter? Je veux dire, ils ne sauraient faire autrement. Ils leur donnent des récits édifiants. En fait, ils leur parlent comme à des enfants. Et moi, je pense, je suis un petit peu frustré quand je vois ça, je pense qu'on pourrait également proposer à des adultes, parce que j'ai vu des adultes extrêmement cultivés, qualifiés, etc., à qui on proposait uniquement des récits édifiants. Mais ce sont des gens qui sont manifestement capables de réfléchir et qui pourraient... éventuellement, ça se fait d'ailleurs heureusement, il y a des gens qui réussissent à faire ça, mais les attirer par le plaisir de l'étude et du raisonnement. Mais ça suppose de surmonter quelques résistances. Je suis un petit peu dur parce que vous connaissez tous, ou vous êtes, pour certains d'entre vous, des gens qui avaient réussi à faire ce dont je déplore l'absence. Donc je parle pas de tout le monde. Hein. Je dis juste que même quand on réussit à attirer quelqu'un, à intéresser quelqu'un par le raisonnement juridique et le judaïsme, est-ce que cette personne va continuer à transmettre ça? C'est très compliqué. Lorsqu'une tradition est rompue, c'est très compliqué de réinitier une tradition qui reste souple.
Peut-être par l'éthique?
L'éthique, oui, mais on n'a pas besoin du judaïsme pour... On n'a pas besoin du judaïsme pour faire de l'éthique.
Oui, mais il y a une éthique proche de Lévitas. Moi, c'est en tout cas ce qui m'a ramené vers le judaïsme.
Ah ben, chacun doit trouver ce qui lui parle. Il se fait que moi, je ne suis... Ça ne me parle pas. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi ça ne me parlait pas. Et en fait, les mots que j'ai mis dessus sont des mots un peu plus généraux. Que finalement, le droit est absent, à ma connaissance.
Finalement, si on revient sur cette distinction entre le mimétisme d'un côté et puis, on va dire,
l'étude de l'autre. Bon, les termes sont peut-être pas forcément les plus justes, c'est pour simplifier. Est-ce que ce qui différencie pas justement les deux, c'est le rôle des affects? C'est-à-dire que dans le mimétisme, il y a une dimension émotionnelle d'identification, et dans l'étude et le raisonnement, les affects sont absents, enfin en tout cas sont, disons, en partie mis au second degré.
Vous n'avez jamais été ému aux larmes par une fortiori?
On va dire que Damasio dit qu'on ne peut pas raisonner sans émotion. Certes. Il y a un auteur, Damasio, qui a dit qu'on ne peut pas raisonner sans émotion, enfin qui a démontré d'ailleurs qu'on ne peut pas raisonner sans émotion. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on demande d'étudier et quand on est dans les raisonnements ou quand on est dans la logique, et le droit est une forme de logique d'une certaine manière, on demande justement de mettre les émotions à distance. Alors que dans le mimétisme, on va demander au contraire de les mettre au premier degré.
Je ne souscris pas forcément.
D'accord.
À l'idée que le mimétisme soit du côté émotionnel et le raisonnement, non. Parfois, imiter quelqu'un, c'est pas par affection, c'est pas par émotion, c'est imiter contraignant. Et parfois, un raisonnement extrêmement subtil peut susciter des émotions de plaisir. Sinon de joie, mais du moins de plaisir. Plaisir intense. Mais c'est un goût qui se cultive. Donc je ne suis pas sûr que je souscrirais tel quel à cette bipartition. Je serais plutôt du côté de Damasio quand il parle de l'erreur de Descartes et l'idée qu'on ne peut pas raisonner sans émotion.
Là où Damasio n'a pas encore complètement travaillé, c'est juste cette idée du troisième cerveau, du cerveau mimétique, et qui est encore à côté de ce que Damasio décrit avec le système limbique et le système des émotions. Mais effectivement, pas de bon raisonnement sans de bon raisonnement, enfin de raisonnement à finalité positive sans émotion. Mais le cerveau mimétique est encore autre chose. Mais en revanche, dans la mémorisation, qui est un des éléments importants de la transmission, les émotions sont fondamentales.
Ce qui est sûr, c'est que pour revenir sur ce qui en tout cas semble, c'est que dans le mécanisme de transmission, vous avez très largement insisté là-dessus, sur le fait qu'on peut être soi-même et avoir une difficulté à transmettre, le registre des affects et des émotions est absolument central. Et donc la difficulté de la transmission, finalement, et dans la difficulté à trouver les voies qui vont activer ces mécanismes d'affect et d'émotionnel.
Je crois que dans le raisonnement, il y a un double mouvement. D'un côté, on ne peut pas se passer d'émotions et ça peut être très fécond. D'un autre côté, c'est vrai qu'il y a certaines émotions dont on essaie de se séparer pour raisonner juridiquement de manière un petit peu froide. Il y a des questions juridiques qui font un petit peu froid dans le dos.
Sont un peu gênantes, en fait. Il y a des questions dont je n'ose pas parler juridiquement, alors que ce sont des questions intéressantes, juridiquement, mais qui supposent qu'on mette un petit peu de côté certaines émotions. Je cite l'exemple, et je propose qu'on n'élabore pas sur cet exemple, mais il y avait un décisionnaire qui a écrit récemment sur dans quel cas est-ce qu'on peut couper l'eau d'une ville. C'est une discussion juridique tout à fait intéressante, mais qui était appliquée à Gaza. Et donc là, il faut beaucoup de sang-froid pour raisonner juridiquement, et on passera forcément pour un monstre. Parce qu'il faut vérifier quelles conditions nécessaires ou suffisantes, etc.
Pourquoi se référer à un décisionnaire en la matière ? Je veux dire, depuis quand l'État d'Israël a une vocation à se fier à un décisionnaire pour prendre une décision stratégique ou...
Ben, ils sont, l'État d'Israël a recruté, par exemple, engagé par quelqu'un comme Michael Vigoda, qui conseille le gouvernement sur les... Oui, mais il conseille le gouvernement...
...la vocation à donner des instructions, et encore moins à un État. Enfin, c'est un non-sens.
Non, mais c'était juste une question séparée qui consiste à se demander, tiens, dans quel cas, dans le droit de la guerre, est-ce qu'on a le droit de couper l'eau? C'est une question juridique. Simplement, si on la pose aujourd'hui, ce serait très difficile de raisonner là-dessus comme si on n'était pas traversé d'émotions dans un sens ou dans l'autre. Et donc, pour beaucoup de questions, poser un regard juridique requiert de gérer l'émotion. Tantôt, il faut renouer avec ses émotions, tantôt, il faut mettre de côté certaines émotions. Et ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'on exige du juge, du Dayan, beaucoup de qualités, notamment celle d'avoir du sang-froid.
Est-ce qu'il n'y aurait pas... Pardonne-moi si ma question est débile. Le rapport entre la morale et la loi, est-ce qu'il n'est pas caractérisé par la notion d'avera lishma, de transgression pour Hachem, pour la mitzvah elle-même? Mais c'est-à-dire, l'avera lishma, est-ce que c'est une transgression ou est-ce que justement c'est une mitzvah? Et à partir de quand est-ce que c'est judiciarisé véritablement le moment où on l'a fait, ou justement là c'est en fonction de ce qui nous semble droit à nos yeux, disons? Je sais pas.
J'ai pas d'avis là-dessus. Tu penses à quelque chose?
Non, je pense pas forcément à quelque chose. C'est-à-dire, déjà, est-ce que le concept d'avera lishma, c'est un concept moral, un concept juridique? Est-ce que c'est une avera? Est-ce que c'est une mitzvah?
Mais de toute façon, toute distinction conceptuelle, Bruno Latour l'a bien montré dans « Nous n'avons jamais été modernes », génère des monstres, des entités tératologiques qui ne ressortissent ni complètement à l'une des catégories, ni complètement à l'autre. Donc, l'idée même qu'on ait des obligations et des interdictions va générer des cas où on est obligé, enfin, on n'est pas obligé, où on est questionné sur le caractère juste d'une transgression. Mais bon, je répondrai plutôt sur des cas. Ce serait plus facile pour moi de réfléchir à,
oui,
à des cas.
Oui, justement, comment le cas arrive dans ce concept-là? Est-ce que justement ils sont répertoriés ou c'est un cas? Je crois que justement ça répond un peu à la question de savoir si le cas il est déjà dit. Dans ce cas-là, c'est plus le cœur qui parle, ou je ne sais pas comment l'exprimer. Quoi.
Oui, je ne suis pas sûr d'avoir.
Ouais, non, parce que je l'ai.
Je dis le cas, c'est avec Yael. C'est Yael qui est une chétiche et elle couche avec le roi. Et donc, elle m'a dit qu'elle a plus de chevards que celles qui ont fait des enfants et qui ont fait une mitzvah. Oui. Mais la Gemara précise que en fait, c'est permis parce que c'est pour la tzala du père Israël. C'est une avera parce qu'il y a quelque chose de. Au contraire, il faut comprendre l'avera comme quelque chose de pas bien, parce que là, elle a eu un certain plaisir. Mais en fait, c'est permis sur le plan halakhique. C'est ça ce que la Gemara peut dire.
Et on le dit aussi sur Esther.
Mais c'est permis ou c'est une mitzvah?
Comment?
C'est permis ou c'est une mitzvah du coup?
Encore, tu vois.
Comment? Oui, c'est mieux qu'une mitzvah, c'est ce que l'Agmara dit, c'est mieux qu'une mitzvah. Mais c'est pas dans le sens où tu peux faire une véritable avéra. L'Agmara précise que c'est permis. Mm-hmm. On appelle ça avéra. La question c'est pourquoi on appelle ça avéra, pas pourquoi.
Pourquoi ça reste une avéra? Pourquoi ça reste appelé une avéra?
Pourquoi ça s'appelle une avéra? C'est parce qu'il y a une certaine ana et c'est un petit problème, mais c'est pas une avéra.
Ouais.
C'est juste
engage figuré. Merci
beaucoup. Bah écoutez, tu as ta réponse. Merci.
Donc, on a terminé. Merci beaucoup.
Merci.
C'est très dense. C'est dense.